Donc, c'est ce que j'aimerais vous souhaiter en ce début d'année 2016. Vous puissiez être joyeux dans votre famille, dans votre travail, mais surtout que la joie de Dieu soit votre force. C'est ce que j'ai à cœur de commencer aujourd'hui. Puis j'aimerais un peu répéter les paroles de notre pasteur bien-aimé de dimanche passé, que tous les deux, Luc et moi, nous vous aimons. Nous sommes fiers d'être avec vous, de vous rencontrer les dimanches matins, de découvrir votre témoignage, que ce soit dans vos familles, dans vos lieux de travail, dans votre soutien les uns des autres. Nous sommes vraiment impressionnés par votre engagement missionnaire, par votre générosité avec ces cadeaux de Noël, par votre zèle dans vos différentes responsabilités dans l'Église. Quand on arrive ici, que tout est installé, il y a deux personnes, en tout cas, tous les dimanches matins, c'est Richard et René qui viennent installer la sono. Donc, merci beaucoup de vous lever alors que la plupart d'entre nous dorment. Merci Sylvie. C'est juste. Bravo Richard, bravo René. Puis je vais... C'est drôle, on ne s'est pas consulté Luc et moi, mais je pense qu'il y a des choses qu'il a dit avant la pause que je vais répéter. Parce que je crois que c'est important. J'ai une bonne nouvelle que l'année 2016, elle commence, elle n'est pas encore terminée et l'histoire n'est encore pas définie. Que cette année encore, on va pouvoir écrire l'histoire de Dieu dans l'anneau d'hier. Tout n'est pas encore défini. Si vous êtes comme moi, le français et moi, on n'est pas copains. En français, il y a toujours des exceptions. Quand on a compris une règle, on se réjouit. Oh non, il y a une exception. Pourquoi ce verbe ne s'accorde pas? Ben, je crois que cette année, encore 2016, il y aura des bonnes exceptions avec Dieu. Dieu va écrire l'histoire avec nous. Et notre vie vaut bien davantage que boulot, métro, dodo. Une saine routine, c'est bon, mais Dieu veut plus que ça. On est créé à l'image de Dieu, ça veut dire qu'on est créé à l'image de Dieu, ça veut dire qu'on a reçu le don de la créativité. Donc on est tous des artistes en puissance. Super, je vais pouvoir mieux dessiner les bonhommes qu'une simple allumette. Non, il y a quelque chose que nous, Dieu a donné, le don de la créativité. Quelqu'un a dit, puis c'est un peu le titre de ma prédication, « La vie, c'est comme un appareil de photo, sans objectif, ce n'est pas pareil. » En autre mot, aligne ta vie en 2016 selon le standard de Dieu. Ne te contente pas de vivre ta vie ce que tu sais de Dieu, mais prends-le à part. Prends-le au mot. L'objectif donc donne au photographe un plus pour sa photo. Il donne des détails que souvent nous ne sommes pas capables de bien voir à l'œil nu. Dieu a le plan de ta vie dans sa main. Fais-lui confiance. Libre, c'est notre thème pour 2016. Un petit témoignage que j'ai vécu juste avant Noël, je suis allé dans la prison des femmes à Joliette et passé un bout de Noël avec ces dames. Puis une des femmes m'a témoigné, elle m'a raconté son horrible histoire de vie. Et c'est très rare que les prisonnières nous racontent pourquoi elles sont en prison. Mais là, tout d'un coup, elle m'a raconté son crime, bref, toutes ces choses difficiles. Parce que vous savez que Joliette, c'est une prison fédérale, donc c'est 4 ans minimum de prison. C'est des situations lourdes. Mais elle me raconte son histoire, puis en même temps, elle me dit, mais tu sais, Laurent, j'ai découvert la liberté. Alors que je vais passer probablement la plupart de ma vie maintenant dans cette prison. À cause de ce que j'ai fait, je sais que je vais rester là. Mais j'ai découvert la liberté parce que j'ai découvert le pardon. Et j'apprends à me pardonner à moi-même. C'est comme si elle m'a dit, je suis libre alors que je suis enchaîné. Waouh, un peu comme l'apôtre Paul. De quoi veux-tu être libéré en 2016? J'ai une bonne nouvelle, c'est que Dieu veut investir dans ta vie. Il veut colmater nos brèches, nos fissures, nos cassures, nos brisements. Et son investissement dans nos vies va augmenter notre capital de confiance, notre capital de dignité. Notre capital, on pourra marcher debout en étant heureux. À la fin 2016, je peux vous dire qu'on sera tous plus riches parce qu'on aura mis notre confiance en Dieu. Plus libres également. C'est l'apôtre Jean qui dit que l'amour parfait bannit la crainte. Et j'y crois. Un des manques de nos libertés, souvent, c'est la peur. Dieu veut nous rendre libres et son amour va gagner sur nos peurs. J'aimerais appuyer l'annonce de dimanche passé de Annie. Elle nous a encouragé d'aller voir le film War Room, ou bien La puissance de la prière. On trouve ce film dans la plupart des vidéozones. Je vous encourage à aller le louer. Vraiment, c'est un film drôle, profond, qui nous montre que prier change les situations. Que prier change les plans de Dieu. Comme l'a dit Luc dimanche passé, pour vivre libre, il y a un prix à payer. Et j'aimerais vous le dire qu'avec Luc et tous les responsables dans cette église, on ne va pas ici juger tes défaites. On n'est pas là dans les groupes de maison ou le dimanche matin pour mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans ta vie. On veut au contraire se réjouir de tes progrès. On veut au contraire se réjouir du fait que tu fais confiance en Dieu. Et parfois, on a l'impression, en tout cas de mon côté, que ma vie, que nos vies sont comme la ronde à Montréal. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Puis quand ça descend, des fois, il y a le vertige ou il y a la vitesse. Hein? Mais si quand ça monte, ça descend, ces montagnes russes, ça donne la lettre V. Je descends, je monte. Je descends, je monte. Eh bien, rappelez-vous, quand on monte, quand on descend, la lettre V, ça donne le mot victoire. Et c'est ce que je nous souhaite en 2016. Que nos montagnes russes nous amènent des victoires sur le chômage, sur la maladie, sur nos péchés mignons. Un péché mignon reste un péché. Un péché mignon reste un péché. Je proclame, comme Jérémie, que Dieu forme des projets de paix et donc de malheur, afin de donner à chacun d'entre nous un avenir fait d'espérance. Avant de découvrir à nouveau ce prix à payer pour Esther, ce prix qu'elle a osé dire « Je vais aller vers le roi, jeûnez avec moi », je vais vous montrer une petite vidéo.
Emma. 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 Emma.
Nouveau le trèfle Maxify, vraiment plus large.
Le papier n'est pas mort, mais Dieu n'est pas mort non plus. Il est vivant. Même s'il n'apparaît jamais dans le livre d'Esther, il n'est jamais mentionné, Dieu va transformer une nation. Que les choses impossibles, selon la logique humaine, sont devenues des possibilités pour le peuple de Dieu. Parce qu'une femme a fait quelque chose d'inhabituel. Dieu est plus en avance que la dernière tablette. Dieu a plus de solutions que le dernier app sur la tablette. Dieu aime transformer nos vies sans issue, nos situations embarrassantes. Qui ne sait pas retrouver des fois de situations où, qu'est-ce que je vais faire? Dieu aime à ce moment-là agir. De nouveau, non pas pour nous accuser ou nous mettre mal à l'aise, mais pour nous relever. Dieu veut nous libérer cette année. Dieu n'est jamais pris de court. Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire d'Esther, pour ceux qui ont envie de savoir un peu plus, nous sommes dans la troisième année du roi Assuérus. Il règne, et comme Luc l'a dit, son règne va de l'Éthiopie jusqu'en Inde. Donc c'est immense. Si vous avez le map monde devant vous, un immense règne. Et il a envie d'organiser un festin. 180 jours de party. 180 jours de bonne bouffe, de joie d'être ensemble. Puis à la fin, il est tellement content qu'il dit à ses responsables, « Je vais vous présenter quand même ma femme. Vasti, veux-tu venir ?» Vasti, la reine, refuse. Comme l'a dit Luc, et je suis d'accord avec lui, elle ne veut pas être comme un objet devant tous ces hommes. Après 180 jours de fête, je ne sais pas s'ils étaient tous bien sobres à ce moment-là. Ce refus de la reine conduit Vasti à vivre le divorce. Le roi ne veut plus de sa femme. Et alors, là, il y a une nouvelle. Le roi se trouve seul, pas de femme. On lui dit, tu peux pas. Un de ses conseillers a une idée. Ben, on voit des conseillers dans tout le royaume, de l'Éthiopie jusqu'en Inde, et toutes belles femmes, tu les prends, tu les mets dans un harem, puis tu pourras les choisir. Ça se faisait comme ça. C'est un peu ce qui est arrivé à Esther. Alors, on va relire quelques versets. À partir du chapitre 2, une fois que la fille est dans le harem, une fois qu'elle a été préparée, qu'elle a reçu pendant une année des traitements de beauté, le roi pouvait la choisir et voilà ce qu'on lit. Chaque jeune fille devait se rendre vers le roi Assuérus lorsque c'était son tour. Soit après 12 mois passés à prendre soin de son corps, conformément à la règle en vigueur pour les femmes. 6 mois avec de l'huile de myrrhe, 6 mois avec des aromates et des produits cosmétiques spécialement féminins. C'est ainsi que chaque jeune fille se rendait vers le roi. Et quand elle passait du harem au palais, on lui permettait de prendre avec elle tout ce qu'elle demandait. Elle y allait le soir, et le lendemain matin, elle passait dans le second harem, sous l'autorité de Shasgaz, l'eunuque du roi responsable des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que celui-ci n'ait envie d'elle et qu'elle ne soit nommément appelée. Esther fut conduite vers le roi Assuérus, dans son palais royal, le 10e mois, c'est-à-dire le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Donc on voit que pendant 4 ans, le roi Assuérus s'est cherché une épouse. J'imagine pendant presque 4 ans, chaque nuit, une autre femme. Le roi préféra Esther à toutes les autres femmes. Elle gagna ses faveurs et sa sympathie plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la proclama reine à la place de Vasti. Esther, je le répète, ce qu'on a entendu la semaine passée, n'a pas choisi sa propre vie. Elle a été enlevée par les conseillers du roi. Elle a perdu ses parents quand elle était jeune. Elle a été éduquée par son oncle, Mardoché. Et là, elle se retrouve du jour au lendemain enfermée dans un harem à la découverte d'une nouvelle culture. Elle attend d'être convoquée par le roi. Elle prend soin de son corps selon des règles bien définies. Je ne pense pas que le roi Assuérus était au courant du plan de Dieu pour le couple quand il a créé l'homme et la femme égaux. Dieu n'a jamais voulu l'abus de pouvoir. Et se faire belle, se faire beau, n'est pas contre la volonté de Dieu. Mais profiter par contre de sa position pour écraser, pour utiliser l'autre, voilà ce qui est scandaleux. Et durant toute cette attente, Esther reçoit la visite chaque jour de son oncle. Il y a des choses ici, dans nos vies personnelles, qu'on prie, qu'on veut voir des changements, qu'on veut voir des percées. Un secret dans ce livre d'Esther, c'est que dans nos attentes, ne restons pas seuls. Comme l'a dit notre cher Gilles ce matin, les groupes de maison, les visites, les téléphones sont nécessaires. L'ennemi cherche toujours à nous isoler, à nous faire croire que c'est impossible. Dieu, c'est vrai qu'il vit hors de notre temps, mais en même temps, il est tellement présent dans notre temps à nous. Il n'est jamais en retard. C'est souvent long l'attente. C'est long l'éternité, il paraît. Je peux vous dire que c'est long l'éternité, surtout au début. L'éternité. Des fois, on a l'impression qu'on attend, c'est tellement long. Mais je veux dire que Esther, en attendant, elle n'a pas perdu son temps. Attendre ne veut pas dire accepter un compromis, se faire un petit Ismaël, comme Abraham. Donc, quelque temps après être devenue reine, cette fois Esther a été choisie, Esther apprend que son mari a autorisé une nouvelle loi. Il faut mettre à mort tous les juifs, voler, dérober tout ce qui leur appartient. Le roi ne sait pas qu'Esther est juive. Et puis pire encore, c'est qu'Esther ne semble plus vraiment intéresser le roi. C'est à nouveau une montagne russe pour Esther. Elle est au fond de la vallée, elle est au fond du V. Et dans ce creux, elle se tourne vers son peuple. « Jeûnez 3 jours, 3 nuits, et j'irai moi-même vers le roi, même si je ne suis pas invité. Jeûnez avec moi. » Elle sait que le futur n'est pas accompli. Elle sait que peut-être il y aura un changement. Elle ne sait pas quoi, mais elle veut y croire. Chapitre 4 d'Esther. Attac vient rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Cécile chargea alors d'aller dire à Mardoché, « Mais tous les serviteurs du roi, la population de ces provinces savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi, dans la cour intérieure, sans avoir été convoqué, n'a droit qu'à un seul verdict, la mort. » Est-ce qu'on serait comme à la place d'Esther, là? Je suis belle, j'ai été choisie, je vais être sauve ou je vais aller vers le roi? La seule personne qui pénètre en vie est celle à qui le roi tend le sceptre en or. Or, en ce qui me concerne, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelé vers lui. Alors on rapporte à Mardoché les paroles d'Esther. Et Mardoché lui fit répondre, « Ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé, au contraire de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. » Tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait? Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Cette phrase, là, ce bout de verset, je l'aime énormément. Dans des situations souvent sans issue, où ça me paraît impossible, je me rappelle de ce verset. Peut-être je suis là, à ce moment-là, pour amener le royaume de Dieu. Moi, j'aimerais t'encourager dans cette année, dans des situations où tu vois que tu as des portes fermées, que tu prennes ce verset à cœur. Si Dieu t'a amené là, peut-être il veut t'utiliser justement pour faire une percée. Et Esther fit répondre à Mardoché, « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse, jeûnez pour moi. Ne mangez, ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes. Et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. » Esther est prête à payer le prix pour la liberté, pour rendre son peuple libre. Elle espère se faire accepter par son mari. Elle décide alors de jeûner 3 jours. Et pour reprendre les mots de notre pasteur bien-aimé, la liberté commence par un pas vers Dieu. Luc m'a donné quelques-unes de ses notes parce qu'il n'a pas pu terminer dimanche passé, donc je vais vous les dire. Esther a risqué sa vie. Elle a risqué de perdre son statut social comme la reine Vasti. Elle a risqué de perdre la face en révélant qui elle était vraiment. Elle a risqué d'être mise dans le même bateau que toutes les autres femmes. Elle a risqué de perdre toutes ses richesses. Elle a risqué de tout perdre pour rien. Si le roi ne l'accepte pas, c'est la mort. Il y a un prix à payer pour la liberté, mais ce prix donne la vraie liberté, donne la paix de l'esprit. Ce prix qui transforme nos peurs en assurance. Quand on chante, on n'est plus esclave de la peur, mais enfant de Dieu. Ce prix qui nous donne une vie pleine de fruits transforme notre tristesse en joie. Ce prix qui a sauvé la nation juive d'un massacre. Et si nos jeûnes de cette semaine sauveraient notre nation québécoise? Je ne suis pas un spécialiste du jeûne, mais je vais quand même en parler un petit peu. Moi, je veux grandir dans ce domaine en 2016. Moi, je sais en tout cas une chose, quand on jeûne, notre esprit se libère des choses de ce monde et on devient plus sensible à Dieu. Il y a des bénéfices de jeûner. Notre façon de voir certaines choses va complètement se transformer. Le jeûne, c'est le nettoyage de printemps, c'est changer la vidange de nos moteurs. C'est-à-dire, Seigneur, je m'offre à toi. Moi, quand je décidais de jeûner, je dis, OK, ben, je vais me mettre devant la télévision. Puis à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, il y a la meilleure Tim Hortons de sandwich qui est proposée, il y a la meilleure Pizza Hut qui est proposée. Donc j'ai réalisé que de jeûner devant la télévision, ce n'est pas une bonne idée. Pas besoin de se torturer l'esprit, d'accord? Je jeûne, je ne veux pas manger, je ne veux pas manger. Le jeûne améliore notre oui. Notre écoute de Dieu, le goût, la vue, le toucher. Le jeûne a même la capacité de briser certaines mauvaises habitudes. Le jeûne prépare la voie pour que Dieu nous parle. Pendant longtemps, j'ai cru que le jeûne, c'était comme une discipline physique. J'ai confondu le régime et le jeûne. C'est pas ça. Le jeûne, c'est une fête. C'est je renonce à quelque chose pour passer du temps de la présence de Dieu. Moi, j'avais un des jeûnes que j'ai fait, j'étais content de moi, j'avais rempli mon agenda de plein de bonnes choses. Mais j'ai oublié l'essentiel, c'était de passer du temps dans la présence de Dieu. Et c'est drôle qu'en étudiant ce jeûne, je me suis arrêté sur un article scientifique sur la production des insectes. Vous allez voir. Certains insectes, pour qu'on les supprime, qu'il y a des insectes nuisibles dans les récoltes, ben certains insectes se produisent en un jour, leur cycle de production, d'autres ça va jusqu'à 40 jours. Intéressant quand Jésus a jeûné 40 jours. Puis par exemple, disait le scientifique, il disait que si on veut exterminer une invasion de mouches pendant une récolte, certaines catégories de mouches, lui, il disait qu'il faut répandre un pesticide pendant 40 jours consécutivement pour toutes les détruire. Il disait même que si on arrête le jeûne, pardon, si on arrête ce traitement avant les 40 jours, on va détruire seulement la génération des mouches vivantes. Mais si on va jusqu'au bout de ces 40 jours, la génération des mouches et les suivantes seront toutes détruites. Ce que j'ai compris, c'est que des fois, le jeûne, on commence, mais on s'arrête avant. Ça vaut des fois la peine de persévérer. De dire, Seigneur, je ne veux plus cette génération de mouches dans ma vie et surtout la génération des autres mouches qui vont embêter mes descendants. Je veux aller jusqu'au bout. Vous avez remarqué que j'aime bien manger, mais je veux vous dire qu'aucun steak, aucun dessert ne peut entrer en compétition quand on passe du temps dans la présence de Dieu. La présence de Dieu goûte très bon. La présence de Dieu va remplir nos privations. Et le jeûne va nous produire une faim de Dieu, faim F-A-I-M, pas F-I-N. La faim, ce n'est pas Dieu fini. Que nous avons faim de Dieu, on reçoit plus. Jeûner, c'est simplement mettre des choses de côté. Le jeûne fait sortir des fois nos mauvaises habitudes. Mais justement, Dieu dit, ok, ça sort. Je vais mettre ta grâce. Je vais mettre ma grâce, ma main pour te bénir. Le jeûne va nous donner de l'assurance. Des portes vont s'ouvrir. Et ce que j'aime dans Esther, c'est qu'elle n'a pas fait son jeûne toute seule. Elle a dit à ses amis, jeûnez avec moi. Elle a compris qu'il y a une puissance dans le jeûne collectif, dans la prière collective. Alors de passer ces 24 heures ensemble ici, pas seulement à dormir la nuit, peut-être pour certains, c'est une invitation qu'on fait. Ça va être fort génial d'être ensemble. On va pouvoir prier ensemble en étant côte à côte. On vous a présenté un programme ce matin, on va essayer de le suivre, tout en étant souvent suivre Dieu. Mais d'être ensemble, ça va nous donner de la force. On va entendre peut-être des fois les grenouilles dans nos ventres. T'as aussi faim, toi ? C'est pas grave, on va surtout entendre Dieu. Donc moi, je me réjouis de passer ce temps avec vous. J'ai envie de dire, comme chrétien, on doit arrêter de mesurer notre foi petite à la grandeur de notre problème. Commençons en 2016 avec, en plantant notre graine de foi face à la grandeur de Dieu. Considérons la grandeur de Dieu face à nos petits problèmes. Puis plantons cette graine, même si elle est toute petite, parce que Jésus a dit, je vais déplacer les montagnes. En 2016, encore Dieu va déplacer nos montagnes. Je crois que jeûner ensemble nous permettra de discerner le courant des priorités de Dieu. Les besoins autour de nous sont immenses, mais on n'est pas tous appelés à y répondre. Le jeûne va diriger notre relation verticalement. C'est comme si le ciel va s'ouvrir, c'est comme si là, à ce moment-là, on va entendre Dieu mieux nous parler. Jeûner va nous permettre de comprendre la bonne route de Dieu pour nos vies. On se met à part pour chercher Dieu, pour affûter notre épée. Et jeûner, c'est simplement quitter la berge. Ok, là, il y a des choses que je veux laisser de côté et je veux marcher sur l'eau. Je veux entrer dans la vie des miracles. Ce matin encore, on chantait « Ressusciter les morts ». Je dis « Ouais, j'ai encore pas fait ça comme prière, moi. Si ça arrive en 2016, est-ce que je vais oser le faire ?» Ben, sur le moment que je le chantais avec vous ce matin, pour être honnête, j'avais pas trop envie que ça m'arrive. Par exemple, je rechantais ce chant, et oui, si Dieu nous le demande de le faire, pourquoi est-ce qu'on le ferait pas? C'est biblique. Dieu nous demande. Donc je dis, peut-être que cette année, on va voir ça. Dieu veut qu'on lui demande des choses qui sont bien plus grandes que nous. Alors je vous défie cette année de demander des choses grandes. Jeûner, ça implique un renoncement. Et c'est pas facile. Mais je crois que c'est le prix de la liberté. Pendant longtemps, puis c'est encore la semaine passée, je priais par rapport à ce message, puis j'étais là, ouais, mais Seigneur, tu attends tout de moi. Tu sais, il y a des choses en moi, je suis content que ce soit moi. Je suis là, mais je discute avec Dieu. Puis j'ai l'impression que plus je me donne à toi, moins j'existe par moment. J'étais là, mais je vais être qui? Puis Dieu est en train de me dire, mais non, plus tu t'offres à moi, plus tu fais de la place de Jésus dans ta vie, Laurent, tu vas être mieux. Tu vas être libre. C'est en anglais qu'on dit « the more we surrender to God », plus nous nous offrons à Dieu, j'ai l'impression, plus on fait ce pas, Dieu prend tout, on devient comme Dieu l'a toujours voulu. Alors ce 3 jours de jeûne, ce séminaire des anciens sentiers, c'est pas juste là pour faire bien dans le calendrier d'église. Voilà ce qu'on a fait. C'est un cadeau que Dieu nous donne. Ça va permettre simplement à nos vies de nous ajuster à sa volonté. Elle est comment la volonté de Dieu, si vous vous souvenez le thème de l'Église de 2013 ? Bonne, agréable, parfaite. C'est comme ça qu'on veut commencer cette année. Joseph, un jour, il s'est présenté devant ses frères en Égypte. Vous savez ce qu'il leur a dit ? Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays, pour vous faire vivre en accordant une grande délivrance. En vous accordant une grande délivrance. Moi, je crois que cette parole de Joseph, plusieurs vont la vivre cette année. Dans leur propre famille, là où Dieu les place. C'est comme vous serez le premier, puis il y aura des besoins, puis vous aurez déjà les réponses. Voilà ce qui va se passer. Dieu veut nous emmener en 2016 pour amener la délivrance, la liberté. Une deuxième petite vidéo. Amen. Merci Christiane. L'amour de Dieu va te rendre fort cette année. Mais j'ai envie de te dire aussi, sois comme ce petit enfant de la vidéo en 2016. Daddy, Daddy. Et Dieu a ce même regard. C'est mon petit frère qui est là ce matin. J'ai de la chance. Ce matin, il téléphone à mes neveux nièces, donc à ses petits-enfants. J'entendais « Papa !» Ben c'est ça. C'est ça notre relation avec Dieu. Dieu veut nous dire « Papa !» Il a plus qu'un déo à vous donner, je vous assure. Ruth, c'est l'autre femme exceptionnelle pour moi dans la Bible que j'aime, comme Esther. C'est une femme moabite, je rappelle, c'est une femme étrangère au peuple de Dieu. Ses beaux-parents quittent Israël à cause de la famine, viennent habiter dans sa région moabite. Ils viennent avec leurs 2 garçons. Ruth et ce garçon se marient. Quelques années plus tard, Ruth se retrouve veuve. On ne sait pas pourquoi son mari est mort, mais il est mort. Puis voilà qu'un jour, un matin, Ruth entend sa belle-mère qui lui dit « Ruth, je vais retourner en Israël. Écoute, je ne peux pas finir mes jours ici. Toi, reste ici, c'est ton pays, tu pourras te remarier. Moi, si je veux me remarier ou si j'aimerais finir ma vie en Israël. » La réaction de Ruth, vous la savez, mais elle est quand même surprenante. Elle est inhabituelle, je dirais, elle dérange. Puis en même temps, elle témoigne la vie. Voilà ce qu'elle a répondu à sa belle-maman. « Où tu iras, j'irai. » « Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple et ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enseveli. » Son choix pour Ruth de quitter une certaine sécurité pour se rendre dans un lieu étranger lui a fait entrer dans une nouvelle dimension. Non seulement elle a pu trouver un autre mari, un nouveau mari, mais ce qui est incroyable, c'est que Ruth sera mentionnée dans la généalogie de Jésus. C'est une étrangère qui a transporté la présence de Dieu au peuple élu. Quelle odeur, nous, du Saint-Esprit, est-ce qu'on va transmettre cette année en 2016? Quand je vais faire mon gaz, quand je mets du gaz dans ma voiture, pardon, quand je vais au supermarché, que je vais acheter mon pain, mon chocolat, etc. J'arrête là, parce qu'on est bientôt dans une période de jeûne. Mais qu'est-ce que je transmets? Quelle odeur est-ce que je transmets? Que nos actions soient dictées par l'amour de Dieu. Vous savez que Barack Obama, élire, il avait son slogan « Yes, we can ». Moi, j'ai envie de dire un autre slogan pour nous tous, c'est « It's now ». C'est maintenant. C'est maintenant que Dieu veut faire des choses extraordinaires, avec nos moyens ordinaires. La vie politique au Canada, avec M. Trudeau, va probablement changer. Mais nous, comme Église, on a la responsabilité d'apporter quelque chose d'extraordinaire, l'amour de Dieu. J'arrive bientôt au bout. En 2015, notre Église, et à peu près l'Église partout dans le monde, a découvert à nouveau le ministère de guérison. Et il y a quelques années que je me suis promené au Nouveau-Brunswick, sur les routes, on voit souvent un panneau qui dit « Pour découvrir le futur, il faut examiner le passé ». Chose intéressant. Et dans mes vacances de Noël, j'ai pris le temps de lire différents livres d'histoire sur ma nation québécoise. Et peut-être vous avez lu ce livre de Monique Fournier, c'est un livre de bien 600 pages, « Nous, c'est qui ?» J'ai trouvé passionnant. Et je avoue que je suis fier d'être un Québécois aujourd'hui. Fier de tout ce que j'ai découvert. Mais ça m'a donné de l'amour pour mon peuple. Ça m'a donné de comprendre par la position de l'abus qu'il a vécu. Pas seulement de l'Église et des Anglais, mais la façon de fonctionner. Il y a quelque chose de plus. Puis en parlant la semaine passée avec notre pasteur Rick Turner au Yukon, qui vous salue bien, qui vous aime aussi très fort, il m'a dit « Laurent, je t'encourage à lire un autre livre. Lis les histoires des hommes et des femmes qui ont amené un vent de réforme. » Alors il m'a conseillé de lire ce livre-là. C'est un livre en anglais, God's General. General, excusez-moi, mais... C'est l'histoire de certains héros de la foi, du Moyen-Âge. Puis la première histoire, c'est l'histoire de John Wycliffe, un Anglais qui est né en 1330, mort en 1384. Donc il a vécu avant Martin Luther, avant Jean Calvin. L'Angleterre, du temps de John Wycliffe, et une bonne partie de l'Europe sont dans une période très sombre de l'histoire. Les hommes cherchent des réponses. Puis Wycliffe, on dirait que c'est un des seuls qui a la bonne idée de chercher des réponses dans la Bible. Rappelons-nous qu'à ce moment-là, que la Bible est écrite seulement en latin. Et seule l'élite, le clergé, les gens de la haute société savent le latin, comprennent le latin. Donc la pensée des gens, la pensée du peuple est définie parce que les prêtres enseignent. Et la plupart des prêtres ne lisaient jamais leur Bible à ce moment-là. Donc, ils racontaient plein d'histoires. Et c'est à ce moment-là, dans ces années, qu'il y a les pires doctrines de l'Église qui ont été faites. Une des terribles doctrines, je vous le dis juste, si les parents sont trop pauvres et qu'ils ne peuvent pas payer le baptême de leur bébé, voilà ce qu'on leur disait. Ben, votre enfant risque de mourir et il ne sera jamais accepté par Dieu. Horrible! On a profité de la pauvreté des gens encore pour les exploiter. Et un jour, je vais vous parler des bonnes choses de ce que Wycliffe nous a apporté. Mais son héritage est très important. C'était le premier homme de l'histoire à écrire la Bible dans une langue parlée du peuple. Il a traduit la Bible en anglais. Il n'a pas pu voir tous les effets de son travail, mais il a semé cette graine de foi. Et il s'est dit, un jour, toute personne qui cherche un sens à sa vie pourra trouver des réponses dans la Bible. Et ça n'a pas été bien reçu. Bien des personnes du clergé jusqu'à Rome ont eu très peur. Non, c'est nous qui savons ce que Dieu dit. Il ne faut pas que le peuple ait la Bible. Donc on lui a fait subir plein de choses pour qu'il arrête son travail. Même 44 ans après sa mort, le pape de l'époque a ordonné que ses os soient déterrés et ensuite qu'on les brûle. Parce qu'il disait que ses cendres soient jetées dans la rivière et qu'on ne trouve plus aucune trace de lui. Je ne veux pas de Wycliffe dans le monde. Mais ce que le pape n'avait pas compris, c'est que ses cendres sont descendues dans la rivière, dans le fleuve, dans l'océan, font le tour du monde. Et aujourd'hui, une des missions les plus connues, c'est la mission Wycliffe, qui cherche à traduire la Bible dans toutes les langues du monde. Alors, en ce début d'année, ne sous-estimons jamais la puissance de notre graine de foi plantée en terre. Même si c'est fait chaud aujourd'hui, on est encore en hiver. Mais j'aimerais dire que sous l'hiver, sous cette neige, dans la terre gelée, la magnifique rose se prépare. La belle pomme que nous allons croquer cet automne se prépare aussi. Donc les choses que nous mettons en terre maintenant, Dieu va les amener à maturité. John Wycliffe a eu confiance que Dieu allait compléter ce qu'il avait commencé. Que va-t-il se passer en 2016? Je ne sais pas. Juste vous dire ce que la reine Elisabeth, elle a lu le jour de Noël, elle a dit à ses sujets dans le monde. Donc on a un petit peu concerné les Canadiens. Elle a dit que la lumière brille dans les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Rappelez-vous. C'est très intéressant, quand la reine parle, elle cite toujours des versets de la Bible. Le roi des Pays-Bas, je vous apprends, il s'appelle Willem Alexander, lui, il a cité dans son discours de Noël le message de l'ange Gabriel. Il a dit « Ne craignez pas, qu'en 2016, vous ne vivez pas sous la peur, que la peur ne doit pas diriger votre vie. » Angela Merkel, la présidente des Allemands, elle a dit le 31 décembre, « Ne suivez pas ceux qui ont le cœur dur, voire rempli de haine, qui revendiquent le droit d'être appelés eux seuls Allemands, qui cherchent à marginaliser les autres. » Alors, pour terminer, mon encouragement, aligne ta vie selon le standard de Dieu en 2016. Comme Esther, prends le risque, reste pas seul, appelle les autres, viens avec moi, j'ai un combat, je veux être libéré. Amen. Pour ceux qui veulent et ceux qui peuvent, on se voit samedi.